Vous êtes sur les ondes de choc.ca. Marie-Ève au micro pour vous souhaiter la bienvenue à cette édition du 7 octobre 2021 des Apatrides Anonymes. Oui, votre rendez-vous bimensuel d'actualités nationales et internationales en lien avec les questions relatives à l'immigration, aux Premières Nations aussi, de plus en plus, à la paranoïa sécuritaire et au racisme. Je suis comme toujours en compagnie de Mathieu et Simon. Bonjour à vous deux.
Salut, ça va?
Bonsoir, bonsoir.
Ça va très bien, j'espère que vous aussi. Alors, aujourd'hui, à l'émission, avec Mathieu qui est à mes côtés en studio, on va parler dans quelques minutes de bavures et abus policiers, hein, un sujet qu'on peut dire récurrent. On va aussi faire une mise à jour de certains dossiers québécois en lien avec l'immigration.
Exactement.
Et on va aussi, Mathieu et moi, vous co-présenter notre traditionnel agenda antiraciste. Et quant à moi et Simon, qui est actuellement en régie, on va se pencher sur l'actualité internationale, plus particulièrement sur les continents européens et africains. Alors, on plonge dans tout ça après un court pont musical. Les questions autochtones ont particulièrement marqué l'actualité tant canadienne que québécoise ces deux dernières semaines. Il y a eu le rapport final de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse qui a consacré un chapitre aux enjeux concernant les enfants autochtones. Il y a eu les piètres excuses de la Conférence des évêques catholiques du Canada aux Premières Nations pour les abus commis dans les pensionnats pour autochtones. Il y a eu le piètre bilan du gouvernement québécois sur les appels à l'action qui étaient contenus dans le rapport de la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec. La commission vient, et 2 ans donc après le dépôt de dudit rapport. Il y a eu le reportage accablant de l'émission Enquête sur les stérilisations forcées de femmes noires et autochtones. Il y a eu les commémorations du premier anniversaire de la mort de Joyce Echaquan et le même jour, l'annonce de la radiation d'une des deux infirmières qui avait tenu des propos racistes à son endroit. Le lendemain, il y a eu le dépôt du rapport d'enquête de la coroner sur la mort de Joyce, dont la seule recommandation faite au gouvernement québécois est la reconnaissance du racisme systémique. Bref, je suis essoufflée juste en faire l'énumération. Puis ça, c'est sans compter les célébrations de la première journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Célébrations qui ont donné lieu à des frasques toutes plus grotesques les unes que les autres de la part de nos politiciens. D'abord, hein, on le précise, journée nationale, mais pas vraiment au Québec, parce que mon oncle Legault trouve que de la souligner par l'instauration d'un congé férié nuirait à la productivité. Hein? On a envie de lui demander c'est quoi le rapport? Toujours dans la catégorie des mononcles, il y a Denis Coderre, dont le programme pourrait se résumer à plus de chars, plus de police et plus de gratte-ciel, qui a cru que c'était une très bonne idée d'annoncer précisément cette journée-là son engagement de restaurer la statue de John A. MacDonald. Vous savez, là, c'est celui qui est reconnu hein, comme étant l'architecte de la politique des pensionnats autochtones. Je laisse 3 petits points. Il y a aussi eu Justin Trudeau qui, lui, a dû présenter ses excuses parce qu'il a cru, lui aussi, que c'était une super bonne idée de se faire croquer le portrait en train de prendre une marche sur une plage de Tofino en Colombie-Britannique où il était en vacances cette journée-là. Bref, entre tout ça et une claque d'en face des Autochtones, il n'y a pas grande différence. En tout cas, moi, je choisirais sans hésiter la claque. Et parlant de claque, ça a l'air, Mathieu, qu'il y a des coups de pied au cul de la police qui se perdent.
Ben oui, écoute, Marie-Ève, j'ai eu peur là, que tu m'envoies Trudeau ou Coderre.
Un soufflet? Non, c'est ça.
Trudeau, il peut pas célébrer la journée de la réconciliation parce qu'il se costume plus. Ça fait que...
occupée. Moins,
ah non, mais
c'est
j'en ai même oublié un. Tant qu'à faire, en parlant de costumes, vite, vite, il y a eu l'abbé aussi qui a eu la fausse bonne idée de lancer sur le marché en vente des t-shirts orange avec Every Child Matters, je pense, en lien avec donc, la journée. Donc, voilà, c'était...
La compagnie de l'abbé Dusson qui n'a pas d'historique colonial.
Pas du tout. Ben non, pas du tout.
Non, il existe seulement depuis quelques années.
C'est ça.
Parlant de l'île de Vancouver, écoute, tu fais un beau lien. Je ne sais pas si Trudeau est allé célébrer la fin de l'injonction à Fairy Creek. Je voulais commencer avec ça.
Ah, ben oui.
Il y a quelques semaines, je vous ai parlé de la grosse mobilisation dans le sud de la Colombie-Britannique. Et la bonne nouvelle, quand même, aujourd'hui, j'en ai une avant de parler des affaires moins drôles, c'est que la Cour suprême de cette province a rejeté une demande de prolongation de l'injonction contre les blocages d'exploitation forestière dans le sud de l'île de Vancouver. Selon le jugement, les interventions des agents de la GRC ont mis la réputation du tribunal en danger. Quand même.
Rien de moins.
L'ordonnance d'injonction autorisait la GRC à arrêter expulser les personnes qui bloquaient l'accès à la forêt aux zones de coupe. Depuis mai, il y a eu plus de 1000 arrestations, ce qui en fait le plus grand mouvement de désobéissance civile de l'histoire du Canada, en tout cas dans ce style-là. Et peut-être préciser que la Cour souligne que les méthodes d'exécution de cette injonction ont entraîné une atteinte grave et substantielle aux libertés civiles, notamment la liberté de presse. Le juge craint que les actions de la GRC ne soient inextricablement liées aux ordonnances de son tribunal, d'autant que des images et vidéos ont été largement relayées et partagées sur les réseaux sociaux, les médias, un peu partout dans le monde. Donc, la Cour renouvelle pas l'injonction, entre autres parce qu'elle a peur d'être associée, à la GRC et à tous les abus qu'il y a eu et la brutalité policière et les arrestations. Donc, je sais pas si Trudeau est allé célébrer ça à Fairy Creek pendant qu'il était le 30 septembre. Sinon, police Repentigny, formation profilage, ça dit quelque chose, Marielle?
Ben oui.
Écoute, le bye-bye, quel beau souvenir, bye-bye 2020. Donc, ça date déjà d'il y a quelques semaines, mais des chercheurs universitaires chargés de se pencher sur le profilage racial à Repentigny, à Repent, ont remis au service de police de la ville un rapport accablant sur le comportement de ses agents. C'est la même équipe qui s'était penchée sur le SPVM l'année passée, avec les Autochtones, entre autres, et les personnes noires et arabes. On y apprend qu'à Repentigny, les Noirs sont trois fois plus susceptibles d'être interpellés que les Blancs.
Ben voyons donc!
Ah oui, écoute, je tombe en bas de ma chaise. Ils représentent 17% des cas d'arrestation, alors qu'ils ne constituent que 7% de la population de la ville de banlieue. Les chercheurs, qui ont aussi pu s'entretenir avec des agents du service de police, affirment que ceux-ci sont dans le déni complet par rapport au profilage racial. Référez-vous au bye-bye. Donc, le rapport se base sur les quelques 2400 interpellations réalisées par le service entre 2016 et 2019, là, toutes personnes confondues. Et subtilement, pour tenter de remédier à la situation, le service de police a dévoilé le jour même un plan d'action de changement organisationnel basé sur une approche d'équité, diversité, inclusion, le fameux EDI qu'on entend de plus en plus parler. Les organismes de la communauté noire de la ville expriment toutefois des réserves concernant le plan. Ils reprochent d'avoir été mis de côté dans son élaboration et condamnent que le document évite de reconnaître le racisme anti-noir. Le regroupement des résidents noirs de Repentigny déplore aussi que le plan parle des groupes sociaux et de la communauté en général, sans jamais faire référence aux personnes d'origine haïtienne principalement. On dirait que nous n'existons pas, a affirmé Pierre Yvenaire du regroupement. La ville prévoit mettre en œuvre différentes mesures sur les cinq prochaines années, ce qui paraît un peu long pour les intervenants qui parlent d'urgence. On rappelle que le service de police est visé actuellement par une douzaine de plaintes à la Commission des droits de la personne. Parlant de plaintes, ça vous rappelle quelque chose aussi. Cet été, un événement très malheureux. Presque deux mois après la mort de son fils abattu par la police à Repentigny, Marie-Mireille Bance annonce qu'elle déposera prochainement une plainte de racisme systémique auprès de la Commission et une autre en déontologie policière contre les agents impliqués, dont on n'a toujours pas les noms, d'ailleurs. Si ça vous tente de voir ce qui se passe à Repentigny, entre autres des exemples, des cas, il y a un très bon article d'Isabelle Haché dans la presse du 23 septembre qui s'appelle « Profilage racial à Repentigny, il doit sûrement y avoir une raison ». Et c'est plein d'exemples des gens qui racontent ce qui s'est passé. C'est vraiment assez c'est traumatisant carrément, même si on a déjà entendu ça,
C'est à la fois du racisme systémique puis du petit racisme ordinaire parce que c'est vraiment...
Ah oui, dans le quotidien, un petit exemple classique, il y a quelques années, Leslie Blow a été interpellé en sortant du McDo, à deux pas de chez lui. Les policiers l'ont fait poireauter dans leur véhicule de patrouille menotté pendant qu'il fouillait sa voiture. Cela a duré une heure et demie et ils n'ont rien trouvé. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? « Tiens-toi tranquille dans notre ville. » on n'est pas à Montréal Noir, ici.
C'est très subtil.
C'est exactement.
C'est pire que dans le bye-bye, finalement. Hein, comme...
La réalité dépasse souvent la fiction.
Oui. Moi, je me disais, je t'écoutais tantôt, on pourrait passer le même sketch au bye-bye 2021. Et en plus, ils échelonnent la mise en place de leurs mesures sur 5 ans. Donc, on pourrait le passer pour les 5 prochaines années, le même sketch, puis il n'y a rien qui aura changé.
Probablement.
Bien dit, Simon. Tout à fait. Fait que, en terminant sur Repentigny, la ville de Repentigny fait acte de contrition en public. Elle a la fâcheuse habitude de laisser traîner des choses. Face aux décisions gênantes, elle ne reconnaît rien. Chaque fois que la commission rend une décision favorable à des citoyens victimes de profilage, la ville refuse de s'y soumettre et souvent elle même les conteste. Dernier truc sur la ville de Québec, rapidement, Marielle.
Oui, parce qu'il n'y a pas que la police de Repentigny
qui pose problème. Heureusement, il y en a d'autres qui font du profilage. Donc, la section de Québec de la Ligue des droits braque les projecteurs sur le profilage racial exercé par la police de la Capitale-Nationale, le fameux SPVQ. Pour le quantifier, le caractériser, ils vont faire une grande enquête avec des témoignages. Faut dire que ça fait 20 ans, plus de 20 ans, Québec, que des gens parlent du profilage racial qu'ils vivent et qu'ils subissent. Du côté de la ville et du SPVQ, on dit que ça n'existe pas, que c'est pas un problème. Quand il y a eu l'affaire de George Floyd, la bombe a un peu avancé en disant on va peut-être engager plus de policiers issus des communautés, là, mais c'est à peu près tout. Et aussi, il faut dire qu'il y a eu deux œuvres d'art de rue dédiées au mouvement Black Lives Matter inaugurées l'été dernier dans les quartiers Saint-Roch et Saint-Jean-Baptiste. Et ils ont été vandalisés plusieurs fois avec des graffitis haineux. La police enquête pour crimes haineux. Donc, c'est à peu près ça aussi sur Québec. C'est une petite nouvelle que je voulais vous dire. Là, c'est rien de très nouveau. Mais je voulais juste pas parler juste de Repentigny.
Mais non, mais c'est bon que tu... Tu sais, c'est parce que... Quand on dit, tu sais, le racisme systémique, c'est un peu ça, je veux dire, la police, c'est quand même une institution, que ce qu'elle soit de la ville de Québec, de Repentigny, peu importe, ou de la SQ, ou de la GRC, les forces de l'ordre sont quand même, on le dit, là, c'est le bras armé de l'État, puis c'est, ils ont quand même un pouvoir et c'est une institution. Donc, c'est ça, là.
Pis c'est du contrôle social, évidemment.
Ouais.
Peut-être te dire, Marie-Ève, aussi, qu'on avait parlé de Ronnie Levy, qui a été abattu au Nouveau-Brunswick en 2020 par un policier de la GRC, qui est un autochtone de Métépénagiac. Puis actuellement, il y a l'enquête publique du coroner au Nouveau-Brunswick, puis il n'y en a pas eu souvent. Fait que ça brasse quand même pas mal. Puis là, on parle beaucoup de problèmes d'accès aux ressources en santé mentale, en toxicomanie. Puis, en tout cas, ceux qui veulent suivre ça, c'est... dans les médias du Nouveau-Brunswick, en tout cas, puis sur les médias nationaux, on en parle. Donc, Ronnie Levy, une autre victime de meurtre policier.
Ben, merci Mathieu pour ce florilège peu reluisant d'incidents racistes chez les forces constabulaires, hein, pour utiliser un vieux terme. On va.
Pour pas dire patibulaire.
Oui, c'est ça, constat patibulaire. On va te retrouver un peu plus tard pour parler d'immigration.
Oui.
On va aller maintenant en musique avec la formation jazz Sons of Kemet, qui est du Royaume-Uni. On va entendre leur pièce In Remembrance of Those Fallen, qui est tirée de leur 4e album Black to the Future, paru en mai dernier. Sons of Kemet, c'est un quartet, donc saxophone, clarinette, tuba, batterie et autres percussions. Et donc, après avoir écorché la reine d'Angleterre sur leur album précédent, qui s'intitulait Your Queen is a Reptile, j'adore le titre, le groupe se penche cette fois-ci, vous l'aurez deviné, là, avec un tel titre, Black to the Future, sur l'identité noire. Des rumeurs courent sur un éventuel concert à Montréal en avril 2022. Donc, soyez à l'affût. Alors, In Remembrance of Those Fallen de Sons of Kemet. Vous écoutez toujours les Apatrides Anonymes sur les ondes de choc.ca. Avant de céder le micro à Simon, une petite nouvelle qui est passée, mais elle est quand même passée inaperçue. Dans nos bilans de 2020 en chiffres, on vous a entre autres parlé, je pense que c'est Simon qui en avait parlé d'ailleurs, des migrations causées par les changements climatiques. Eh bien là, la Banque mondiale vient de sortir ses projections pour les années à venir et vous allez voir qu'elles ne sont pas rassurantes du tout. Dans un nouveau rapport donc publié à la mi-septembre, la Banque mondiale estime que d'ici 2050, les changements climatiques pourraient engendrer 216 millions de réfugiés, la plupart en Afrique et en Asie, en raison notamment de la hausse du niveau de la mer. Les dernières projections de la Banque mondiale dataient de 2018 et se concentraient sur trois régions du monde, l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud et l'Amérique latine. Elle projetait alors que 143 migrantes climatiques seraient issus de ces territoires-là d'ici 2050. Donc, si les projections ont presque doublé dans le nouveau rapport, c'est surtout que la Banque mondiale y a intégré aussi l'Asie de l'Est, le Pacifique, l'Afrique du Nord et aussi l'Europe de l'Est et l'Asie centrale. Donc, puis il faut aussi préciser qu'on parle surtout en fait de migration interne. D'après le Norwegian Refugee Council, chaque année, ce chiffre-là est supérieur à celui des déplacements liés aux violences et aux conflits quand même. Et donc, pour vous donner un aperçu, si on commence par le continent qui est le plus concerné, qui est l'Afrique subsaharienne, dont Simon va nous parler aussi un peu plus tard, l'Afrique subsaharienne donc pourrait compter jusqu'à 86 millions de migrants climatiques d'ici 2050, selon le scénario le plus pessimiste. Mais c'est surtout dans le nord du continent que la proportion la plus importante de migrants climatiques internes par rapport à la population totale sera la plus importante. Pourquoi? Principalement à cause de la raréfaction, évidemment, de l'eau à l'intérieur des terres et, comme je le disais, l'élévation du niveau de la mer sur des zones côtières qui sont très peuplées déjà. Les territoires les plus touchés seraient la côte nord-est de la Tunisie, la côte nord-ouest de l'Algérie, l'ouest et le sud du Maroc et les contreforts de l'Atlas central. Et ça va avoir comme principale conséquence de transformer des centres urbains importants où l'eau est davantage disponible, comme le Caire, Alger, Tunis, Tripoli, mais aussi le corridor Casablanca, Rabat et Tanger, ou encore Alexandrie. Donc, de transformer ces villes-là en foyers d'immigration climatique. En Asie, ce sont les régions de l'Est, du Pacifique et du Sud qui totaliseraient près de 90 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050. Puis si on parle de la sous-région là, du bas Mékong, elle devrait être plus particulièrement touchée puisque l'élévation du niveau de la mer, évidemment, va mettre en péril les principaux moyens de subsistance que sont le riz, l'aquaculture et la pêche. Donc ça va aussi créer des foyers d'immigration climatique dans les plaines côtières qui sont aussi déjà densément peuplées, par exemple au Vietnam, dans le delta du Mékong. Quant au Moyen-Orient, ben c'est plutôt la hausse là des températures qui va être à l'origine des futurs déplacements. Le nombre de jours, on prédit là que le nombre de jours qui affiche une température dépassant le seuil de tolérance humaine devrait augmenter dans plusieurs grandes régions urbaines en expansion comme Amman, Aden et Bagdad, mais aussi dans des régions côtières comme au sud du Yémen, dans les pays de l'Est de la Méditerranée, dans la côte sud de l'Iran et la partie la plus au sud de l'Irak aussi. Donc déjà que ça va pas très bien dans ces coins-là, la situation risque d'être de plus en plus difficile. Et donc sur ces prédictions quasi post-apocalyptiques, je vais me tourner vers Simon qui lui nous amène en Grèce où la situation aussi dans les camps pour personnes migrantes est de plus en plus intenable.
De plus en plus intenable. Je crois pas qu'il y ait des impacts sur le niveau de la mer. C'est quand même un pays qui est très montagneux.
Oui.
Je vais vous parler un peu de la Turquie, un petit peu le même principe aussi. Par contre, il pourrait avoir d'autres effets des changements climatiques. On va le voir avec le Burundi dans mon bloc africain, qui n'est pas du tout sur les côtes, qui est au milieu du continent, mais qui souffre de toutes sortes de... En tout cas, je vais regarder ça pour le bloc Afrique. Donc, un petit crush par la Turquie avant de parler de la Grèce. C'est pas mal interrelié les deux, parce que c'est vraiment la même route migratoire. La Turquie prend vraiment très au sérieux son rôle de chien de garde de l'Europe en multipliant les arrestations de masse de migrants. Des chiffres assez élevés, c'est des dizaines, voire jusqu'à une centaine d'arrestations par jour. Parfois plus, on a atteint le chiffre de 335 arrestations de migrants durant une seule fin de semaine. Ça, c'était fin septembre, c'était un record. On constate des augmentations progressives, là, c'est-à-dire que c'est des chiffres qui pourront augmenter éventuellement. Ça se passe pas juste sur les côtes de la mer Égée en face de la Grèce, mais aussi avec la frontière terrestre avec la Grèce. On oublie qu'il y en a une, des fois.
Oui.
Ça se passe à l'est, à l'ouest, au centre du pays, bref, partout, sur les routes, dans des refuges, avant de prendre la mer, une fois embarqué en mer, refoulé par les gardes-côtes grecs, on en a parlé souvent, là, le phénomène des pushbacks. Encore une fois, une majorité de gens provenant d'Afghanistan et de Syrie. Le nombre de réfugiés afghans s'était plutôt stabilisé dernièrement, mais avec la reprise du pouvoir des talibans, c'est bien reparti, même si la Turquie est à presque 2000 km de l'Afghanistan.
Quand même.
Il y a déjà des afflux, ça fait quoi, ça fait un mois
à peu près,
c'est fin août, si je me rappelle bien. Il y a un mur de 3 mètres de haut et de 300 km de long qui est en construction à la frontière turque avec l'Iran. L'un des pays de passage des réfugiés afghans. Ce mur-là était déjà en construction depuis 4-5 ans, mais on vient d'accélérer sa mise en œuvre et augmenter considérablement ses caractéristiques militaires et son budget. Donc, on sent l'urgence. Il ne faut pas que les Afghans y passent. Là. Donc, ce qui nous amène en Grèce, où les chiffres augmentent aussi, surtout sur la répression avec le durcissement des politiques d'asile menées par le gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis, qui est au pouvoir depuis 2 ans. La Turquie est maintenant reconnue depuis un petit bout de temps par la Grèce comme un pays sûr. Donc, on a décidé récemment de plus tenir compte de la vulnérabilité, des personnes qui arrivent en Grèce par la Turquie ou des menaces qui pourraient peser sur ces personnes-là. Aussitôt qu'on établit un lien entre, vous allez voir, c'est pas comique, là, mais aussitôt qu'on établit un lien entre le demandeur d'asile, qu'il soit afghan ou syrien, qu'on lui trouve un lien avec la Turquie, on le renvoie automatiquement. Faut préciser, l'accès est pratiquement impossible à des avocats avant les entretiens de demande d'asile devant un fonctionnaire. Donc, les demandeurs arrivent pas préparé du tout. Les entretiens, ça se fait de manière assez expéditive, une quinzaine de minutes souvent, puis c'est fini. Le lien qu'on fait entre le demandeur d'asile et la Turquie, ça peut être aussi mince que le fait d'être musulman, alors que la Turquie est un régime pseudo-islamique, donc des milliers de Syriens ou d'Afghans qui ont simplement traversé la Turquie sans la connaître. On les renvoie là-bas en leur disant qu'ils vont se sentir comme chez eux, vu que c'est un pays musulman.
Bien sûr.
C'est aussi épais que ça. Sauf qu'une fois en Turquie, les camps de réfugiés débordent complètement. La Turquie, je crois que c'est le pays de la planète qui a le plus de réfugiés.
Peut-être
avec Jordanie, Liban, je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est des millions. Donc, le gouvernement turc procède lui aussi à des refoulements vers les pays d'origine ou vers le dernier pays traversé, ce qui est souvent la Syrie. J'en arrive au camp de réfugiés en Grèce. Un an après le gros incendie du plus important camp grec, le camp de Moria à Lesbos, un autre incendie a eu lieu au camp de Vati sur l'île de Samos. C'était le 19 septembre, c'est tout récent. Ça s'est produit la veille du déménagement du camp vers des nouvelles installations parce que le camp de Vati à Samos était critiqué depuis des années pour ses conditions dégueulasses de salubrité et de sécurité. Pas du tout évident. Donc, il n'y a pas eu de victimes dans l'incendie à Samos et les gens ont été transférés dans le nouveau camp ultra-moderne d'où les migrants ne seront autorisés à sortir seulement de jour et munis de badges électroniques. Donc, il y a des barbelés, des scanners à rayons X et des portes magnétiques. Là, c'est vraiment une sorte de prison.
Oui. Ils essayent même pas de le cacher.
Ben, ils continuent d'appeler ça des camps. Il y a un acronyme en anglais, MPRIX, Multi-Purpose Reception and Identification Center.
Oh, okay,
donc,
ouais.
On n'utilise pas le mot prison, mais non. C'est vraiment les mêmes caractéristiques. Mm. C'est les mêmes compagnies qui fabriquent des installations carcérales qui sont les architectes de ces camps-là. Celui de Samos, c'est le premier à être ouvert. Il y en aura 5 en tout dans les îles grecques. Lesbos devrait être le prochain. Il y en aurait aussi sur les îles de Chios, Kos et Leros. Donc, non seulement c'est, comme on disait, quasiment des prisons, mais on les construit loin des villes, dans des lieux isolés, ce qui fait aussi en sorte de nuire aux bénévoles, aux observateurs, aux journalistes ou aux organisations qui, normalement, sont proches des camps de réfugiés, peuvent même y accéder de manière plutôt libre en général. On aurait prévu dans les nouveaux camps quelques locaux pour les associations qui offrent des services aux migrants, mais il y aura probablement un plus grand contrôle de savoir qui peut occuper quel local à l'intérieur du camp et sous quelles conditions. On va probablement aussi tarifer la location de ces locaux-là pour les organismes qui vivent souvent de dons ou de quelques miettes de subventions. On prévoit des navettes pour relier les camps aux villes de la région et ce sera tarifé aussi, quelque chose comme 1,50 € le trajet. Donc, quasiment autant que ce que nous-mêmes, ici à Montréal, on paye pour un billet d'autobus pour le transport en commun. Et ce sera le même prix pour les employés et pour les réfugiés. Donc, tout ce contrôle, ces restrictions, le fait d'être loin de tout, ça fait craindre beaucoup pour l'intégration des réfugiés, l'accès aux services, leurs opportunités de se créer des contacts, trouver des emplois temporaires, d'apprendre la langue, etc. On s'inquiète pour les personnes qui occupent un emploi actuellement, dont l'horaire ne correspondra pas aux heures de sortie qui seront autorisées ou au trajet des navettes.
C'est ça.
Donc voilà, un nouveau modèle de camp de réfugiés en Grèce avec le prototype de celui de Samos qui va se multiplier ailleurs et éventuellement en Europe aussi puisque ces nouveaux camps prisons sont financés en partie par l'Union européenne. Donc l'Union européenne va regarder ça avec intérêt. On sait que la Grèce et l'Italie servent souvent de laboratoire pour l'accueil, entre guillemets, des réfugiés. On craint ici aussi, évidemment, pour la santé psychologique de tout le monde. On s'inquiétait déjà aussi de l'éducation des enfants réfugiés avant l'instauration de ces nouveaux super camps. Normalement, il y a l'UNICEF et d'autres organismes locaux qui donnent quelques heures d'école aux enfants chaque jour, mais pas à tous les enfants parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs. Donc, tous les organismes qui gravitaient autour des camps pour donner des cours, des ateliers, des activités sportives doivent depuis plusieurs mois, exiger des tests COVID négatifs aux enfants. Mais les enfants n'ont pas accès aux tests dans bien des cas. Donc, ça a plutôt annulé beaucoup de services et d'activités. Ouais. Normalement, le gouvernement grec a une obligation légale d'assurer l'éducation de tous les enfants qui se trouvent sur son territoire, peu importe le statut. Donc, les activistes sur place militent pour que les enfants soient envoyés dans les écoles publiques avec les enfants grecs, comme ça se faisait avant, mais c'est une pratique qui est de moins en moins courante. Et quand les nouveaux prisons, camps super sécurisés seront construits loin de toutes les villes, de toutes les infrastructures publiques, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec l'éducation des enfants, mais l'idée de les envoyer à l'école publique ou l'école du quartier, en fait, ce sera devenu impossible.
Ben non, c'est ça.
Puisque ce sera construit dans des collines ou dans le désert, quasiment. Donc, l'éducation des enfants, je suis pas sûr que c'est une question à laquelle le gouvernement grec a réfléchi. Donc, probablement qu'il est dans sa logique qu'avec le durcissement de ses lois d'asile, les réfugiés resteront pas plus que quelques jours ou semaines sur le territoire grec. Donc, pour lui, ça évacue plus ou moins la question de la scolarité des enfants. Pour ceux et celles qui s'intéressent à la question, il y a le Conseil grec pour les réfugiés avec Save the Children qui ont publié un rapport conjoint en septembre dernier. Ça s'appelle « Back to School, Refugee Children in Greece Denied Right to Education » et ça se trouve assez facilement en ligne. On apprend entre autres, parce qu'il y a plein de données assez marquantes, là, que la proportion d'enfants scolarisés varie dépendamment de dans quel camp, quel type d'installation on se trouve en Grèce. Ça va de moins de 1% et pour les meilleurs taux, autour de 20% actuellement. La moyenne en temps normal pré-COVID, c'était autour de un tiers des enfants qui recevaient une scolarité dans les camps. Donc, voilà, c'est je termine là-dessus, là, sur l'éducation des enfants, ça regarde pas bien, c'est un mélange de, le durcissement des politiques d'asile, le je m'en foutisme un peu du gouvernement grec, et dans le cas de Samos, c'est des futurs nouveaux camps prison qui vont éloigner des ressources les enfants et leurs parents.
Ouais, non, c'est triste sort qui les attendent. Merci Simon. On te retrouve tout à l'heure pour l'Afrique et on fait un petit pont musical. Avant de retrouver Mathieu, qui va, entre autres, nous parler des travailleuses et travailleurs migrants au Québec, le Danemark serre la vis, lui aussi, des personnes migrantes sur son territoire. Le gouvernement a déposé un projet de loi qui les obligerait à travailler au moins 37 heures par semaine pour pouvoir bénéficier d'allocations sociales. Le texte va d'abord concerner les personnes migrantes qui perçoivent des allocations depuis 3 ou 4 ans et qui n'ont pas atteint un certain niveau de scolarité ou de maîtrise du danois. Je vais quand même vous citer la première ministre Mette Frederiksen. Vous allez voir, c'est édifiant. J'ouvre les guillemets. Nous voulons introduire une nouvelle logique de travail où les gens ont le devoir de contribuer et d'être utiles. Et s'ils ne peuvent pas trouver un emploi régulier, ils doivent travailler pour leur allocation. Pendant trop d'années, nous avons rendu service à beaucoup de gens et en ne leur demandant rien. Donc, de façon plus hypocrite, le gouvernement, lui, ben, parle d'intégration. Hein? Par exemple, dans son projet de loi, il signale que 6 femmes sur 10 originaires du Maghreb, de Turquie et du Moyen-Orient sont en dehors du marché du travail danois. Et donc, il veut les faire sortir de chez elles. Alors, dans un premier temps, l'ambition du gouvernement, c'est d'intégrer, entre guillemets, 20 000 personnes en les poussant à trouver un emploi par le biais des 98 communes que compte le Danemark. Et quels sont ces emplois? Je cite encore une fois ici, cette fois, le ministre de l'Emploi, Peter Hammarlegaard, qui est encore plus consternant que la première ministre. J'ouvre les guillemets. Cela pourrait être un travail sur la plage pour ramasser les mégots de cigarettes ou du plastique ou aider à résoudre diverses tâches au sein d'une entreprise.
C'est sérieux, ça? Ou?
C'est très sérieux.
Ben, le Danemark est un bon laboratoire aussi, comme disait Simon pour la Grèce. Là,
effectivement.
Le Danemark,
ouais. Donc, vous comprendrez donc les doutes de l'opposition hein, qui qualifie la mesure de dumping social soutenue par l'État. Et donc, ça fait quand même un petit peu penser, Mathieu, à ce qui se passe ici, non?
Oui, tout à fait. Okay. Écoute, puis la social-démocratie en Scandinavie, c'est encore le modèle pour bien des Québécois, mais il faudrait peut-être qu'ils s'intéressent un peu à ce qui se passe là-bas.
Ouais.
Legault, lui, c'est plus la France en général. Mais dans ce cas-ci, ben, c'est le Québec, le bon vieux Québec conservateur, c'est-à-dire... je vais te lire le titre, là. Moins de 3000 anges gardiens régularisés au Québec avec le fameux programme spécial.
Hey boy.
Ça a passé un peu dans le bar. C'était à la fin de la campagne électorale. Je cite Marjorie Villefranche de la Maison d'Haïti qui dit « On est content d'avoir lancé un mouvement qui a plus profité aux gens de l'Ontario qu'aux gens du Québec. » Et les chiffres sont assez parlants. Québec a finalisé moins de 1500 dossiers, ce qui correspond à peu près à 2900 certificats de sélection, donc personne. Et en Ontario, on parle de 7085 personnes qui vont avoir été régularisées par ce programme-là. Les exigences pour pouvoir postuler à ce programme pan-canadien variaient selon les provinces. Contrairement au reste du Canada, le Québec avait sa propre liste de critères et de documents à fournir, hein, la spécificité québécoise. Aux yeux de la responsable de la Maison d'Haïti, Mme Villefranche, l'un des trois organismes reconnus pour accompagner ces migrants, le sien. Les exigences du gouvernement Legault ont privé de nombreux demandeurs d'asile de ce programme. 10 000 personnes, familles comprises, auraient pu revendiquer une résidence permanente par le biais du programme. C'est des gens qui avaient travaillé donc au front de la COVID.
Qui se qualifiaient, non?
Qui se qualifiaient, selon la toute logique, en tout cas au niveau canadien.
Ouais.
Plusieurs candidats ont quitté le Québec ces derniers mois pour s'installer en Ontario afin de profiter du programme qui était plus simple et souple. On espère encore du côté des organismes un élargissement du programme, mais aussi un accès à tous ceux qui ont travaillé dans le milieu de la santé, donc pas juste les gens qui étaient directement dans les soins. Et je cite la réponse du MIFI, aucune révision, allongement, élargissement ou prolongation du programme spécial ne sera fait. Hein, c'est assez clair.
C'est non.
C'est non. C'est non. On est au Québec.
Oui.
Donc, sinon, au niveau des travailleurs étrangers temporaires, la façon de leur recrutement, un dossier de Radio-Canada assez intéressant de la mi-septembre.
Oui.
On parle de contrats non respectés, promesses d'immigration utopiques, frais exorbitants exigés, multiplication d'intermédiaires, intégration manquée. Donc, un choc pour plusieurs en arrivant au Québec avec un beau contrat fermé. Je donne un exemple. Originaire du Sénégal, Mamadou Hané est parti d'Italie, fin 2019, avec sa compagne et ses 4 enfants. Direction Québec avec un permis de travail fermé, lié à une entreprise pour être mécanicien industriel. Avant son déménagement, son futur employeur a rempli le contre-type du ministère de l'Immigration du Québec, qui est indispensable quand on fait du recrutement à l'international. Tout y figure, le salaire, les jours de repos, les avantages sociaux, la durée de l'entente. Mais lors de son premier jour de travail, l'entreprise lui a présenté un nouveau document avec un paragraphe concernant une éventuelle démission. En cas de départ durant les trois ans de son contrat fermé, l'employé doit rembourser au prorata une indemnité de 5 000 $ correspondant aux frais déboursés encourus pour l'obtention de son permis et les coûts de formation.
Ben voyons là.
C'est illégal. Évidemment. Donc, je cite M. Mamadou Hané. On m'a dit que c'était ça qu'il fallait que je fasse, signer le nouveau contrat, ou sinon je devais rentrer chez moi, dans mon pays. Et près d'un an plus tard, en pleine pandémie, il est mis à pied temporairement parce qu'il n'y a plus de travail, l'usine ne produit plus. Fait que là, il reçoit des offres de d'autres entreprises.
Il peut pas accepter.
Ben voilà, mais après avoir donné sa lettre de démission, il reçoit une mise en demeure de son ex-employeur qui, même s'il n'avait plus d'heures à lui fournir, lui demande 3 300 $. Bon, il s'est battu avec un avocat, il a gagné, mais c'est quand même un cas parmi plein d'autres. Il y en a pires que ça. Dans le contexte, au cours des dernières années, le nombre de travailleurs étrangers temporaires a explosé, passant de 17 000 à 33 000 au Québec. Donc, l'an passé, en 3 ans, ça a doublé. Ça, c'est vraiment la méthode Legault. La CAQ a négocié avec le fédéral pour augmenter le nombre de TET, travailleurs étrangers temporaires au Québec, mais aussi pour assouplir les démarches et les règles. Une entente a été annoncée au début. On avait parlé, les entreprises québécoises peuvent désormais embaucher 2 fois plus de travailleurs étrangers temporaires dans les postes à bas salaire. On passe de 10 à 20 par entreprise. On avait parlé ici à l'émission. C'est quand même assez intéressant de savoir.
Ouais, ben, on passe du simple au double.
Exactement. Pour le reportage de Radio-Canada, où il y a plein d'autres témoignages, Québec et Ottawa ont fait des réponses générales, vagues. Le fédéral, un porte-parole, dit « En cas de mauvais traitement de la part de son employeur, un travailleur étranger peut contacter Ottawa afin d'obtenir un permis de travail ouvert. » Mais ça, c'est pas facile. L'entreprise concernée peut ensuite recevoir une pénalité financière et une interdiction d'embaucher des travailleurs temporaires. Et une semaine plus tard, si tu me laisses 2 minutes, Marie-Ève, les réponses de Jean Boulet, ministre du Travail québécois, ça vaut de l'or.
Ça doit être édifiant, ça aussi.
Oui, c'est inacceptable, c'est intolérable. Il ne mâche pas ses mots contre les entreprises québécoises, les intermédiaires et les agences de recrutement qui abusent de pratiques qui sont illégales. Il abuse de pratiques, c'est une mauvaise phrase. Je le cite, on s'assure que ces gens sont bien informés. Ils ont les mêmes droits et obligations que les travailleurs québécois. On parle des travailleurs étrangers. Donc, c'est de leur faute. Ils doivent s'informer, connaître leurs droits. Selon les différentes oppositions, le gouvernement a tout fait pour augmenter le nombre de travailleurs étrangers temporaires, mais il n'a pas pensé à les accompagner et à les aider. Beaucoup demandent une commission d'enquête publique sur le sujet. Sinon, on parle aussi, on suggère que ces travailleurs soient attachés à une région ou à un secteur et non pas un employeur unique, comme minimum, parce qu'on dit qu'un permis de travail fermé, ça peut ouvrir à toutes sortes d'abus. Ouais, c'est une évidence. Et qu'en pense Jean Boulet sur le permis de travail ouvert? J'ai pas de position là-dessus.
Ben non, évidemment.
Et ce sujet n'a pas été abordé avec Ottawa, qui co-dirige ce programme. Explique M. Boulet.
Ben oui, mais la spécificité québécoise est où quand on a de besoin, là?
Écoute ça, il se dit néanmoins fier de ces assouplissements, des assouplissements du 10 à 20 pour les entreprises. Puis là, il demande cette mesure, est-ce qu'elle contredit pas la position de Legault, qui avait dit qu'il y avait un problème avec les immigrants touchant moins de 56 000 $ par année, parce que les TET, c'est des bas salaires.
Ben oui.
Il répond, je ne ferai pas trop de commentaires là-dessus, visiblement gêné. C'est une conférence de presse. Fait qu'écoute, c'est Jean Boulet, c'est une grosse nullité, mais tu sais...
Il avait perdu son télésouffleur, je pense.
Oui, il avait perdu... ouais, c'est peut-être perdu d'autres choses, mais c'est que les chars. Mais sinon, c'est ça pour dire que c'est ça, c'est le ministre du Travail, finalement, qui répond sur des enjeux d'immigration comme ça, parce qu'on a l'angle seulement
de la
productivité.
Ben oui, puis de pénurie de main d'œuvre.
Et d'aider les pauvres entreprises.
Ben oui, c'est ça.
D'exploiter, finalement, laisser des... Tu sais, on augmente des seuils, puis après ça, par exemple, de nombre de travailleurs, on double en 3 ans, puis
ben ça va juste
pas
multiplier les cas d'abus.
Ben oui, d'abus, c'est ça. Ben puis il y a plein d'intermédiaires, puis de crosseurs. Fait que, informez-vous là-dessus.
Merci, Mathieu. Okay. On te retrouve tantôt pour l'agenda.
Oui.
Vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca avec les Apatrides Anonymes. On vient d'entendre la formation montréalaise Octoplot avec la pièce Évidence Impossible qui est tirée de leur album Rion. Je sais pas trop comment le prononcer parce que c'est comme Rion Noir mais avec pas de S en un mot. Mais Rion Noir, disons, paru en nous et qui figure en troisième position du palmarès franco de choc. Je cite leur auto-description sur leur Bandcamp parce que je la trouve bien sympathique. J'ouvre les guillemets. C'est tuné bas, il y a des passes élevées puis des émotions.
C'est ouais, beau.
C'est beau. Avant de céder la place à Simon pour les actualités d'Afrique subsaharienne, une petite nouvelle qui concerne le Nigeria. Depuis un certain temps, on voit que plusieurs anciennes puissances coloniales entament des processus de restitution d'objets d'art qu'elles avaient pillés pendant leur règne dans leur colonie. C'est au tour de l'Allemagne de conclure un accord avec le Nigeria en vue de la restitution à partir de juillet 2022 de centaines d'objets d'art pillés pendant l'ère coloniale. C'est environ 1000 pièces qui ont été identifiées, mais le nombre final d'œuvres va dépendre de leur état là, avant le transport vers le Nigeria. Cette initiative-là s'inscrit évidemment dans une série de mesures qui ont été prises récemment par l'Allemagne pour tenter de se confronter aux crimes de cette période-là, comme la récente reconnaissance officielle du génocide qu'elle a perpétré en Namibie. Faut dire que des milliers de bronzes ont été volés dans le palais de l'ancien royaume du Bénin, qui est aujourd'hui le Nigeria. Ces bronzes-là comptent parmi les œuvres de l'art africain les plus réputées, sont aujourd'hui dispersés dans plusieurs musées européens après avoir été pillés principalement par les Britanniques à la fin du 19e siècle. L'initiative allemande, elle, ben, fait écho à des démarches similaires engagées par d'autres pays européens et vient un peu accroître la pression sur le British Museum qui détient quelques 700 bronzes. Donc, le Nigeria est aussi en pourparler avec des musées américains et européens qui prévoient recevoir plusieurs pièces le mois prochain provenant de New York, d'Aberdeen et de Cambridge. Et ultimement, le Nigeria envisage de construire un musée à Benin City dans le sud de l'État d'Edo où il espère exposer tous ces objets-là. Alors à toi, mon cher Simon.
Mais qu'est-ce qu'on va aller voir à Londres s'il n'y a plus d'artefacts africains au British Museum?
On y va pas.
Bon, même chose. Mais pour vrai, je pense que le Louvre et le British Museum doivent être parmi les musées au monde qui ont le plus d'objets coloniaux, là,
ouais,
dits ethnographiques.
Oui.
Puis, ouais, peut-être autre petite parenthèse, Lagos, Nigeria, que tu n'as pas nommé dans les villes les plus menacées par la montée des eaux, ça m'a surpris. Je vais aller lire là-dessus parce que c'est vraiment rendu une mégapole de 20 millions à peu près d'habitants directs.
OK, c'était pas dans les dans celles touchées, mais peut-être que ça l'est.
Fait que pour les 7-8 prochaines minutes, on reste sur le continent africain. On était dû, je pense, là, toutes des nouvelles qui n'ont pas vraiment lien entre elles, mais de plusieurs pays différents. On va partir de l'ouest du continent et on va terminer vers le centre de l'Afrique. Donc, Guinée-Conakry, la plus importante des trois Guinées. Le Mali, la Côte d'Ivoire, RDC, Rwanda et Burundi. Donc, je sais pas si je vais avoir le temps. On va essayer. On commence avec la Guinée, ou Guinée-Conakry pour la différencier des autres Guinées. Coup d'État militaire par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, pour renverser le président Alpha Condé, qu'on était tous un grand fan ici.
Oui.
Ça s'est passé il y a un mois, le 5 septembre. Doumbouya a prêté serment il y a deux semaines à la tête d'un gouvernement qu'il dit de transition pour une durée qui n'a toutefois pas été précisée. L'accession au pouvoir du nouveau président-colonel, je ne sais jamais comment les appeler ces présidents-là, c'est des généraux, des maréchaux, des
présidents, des
chefs spirituels de la nation. en tout cas, bref, ça n'a pas eu l'air d'avoir créé de chaos ou de mouvement migratoire, bien que le coup d'État en tant que tel s'est quand même fait dans le sang. Beaucoup de pays dans le monde ont condamné le coup d'État, mais pour la population guinéenne, d'après ce que j'ai pu lire, ça va de l'indifférence à l'espoir même et la joie, après une succession de régimes autoritaires qui ont maintenu les Guinéens dans une pauvreté souvent extrême, qui favorisait les divisions ethniques. Donc on verra ce qui va ressortir de cette charte de transition là, qui vient d'être publiée, une sorte de feuille de route qui prévoit restaurer la bonne gouvernance, le retour de la démocratie, le redressement de l'économie, et qui prévoit aussi quand même que le colonel en place actuellement ne pourra pas être candidat à sa succession. Donc, toujours faut-il qu'il y ait une élection qui soit organisée.
C'est quand même un gros programme.
C'est un gros programme. C'est toujours drôle, je trouve, de notre point de vue ici de Montréal, aux apatrides, on n'a pas de correspondant en Guinée, là, et je constate quand même un certain décalage de ton entre ce qu'on lit dans les médias occidentaux par rapport aux médias guinéens. Et c'est en français en Guinée, alors c'est facile d'accès. Bref, difficile de se faire un point de vue objectif, mais c'est clair que ça va continuer à brasser en Guinée. Bon, on va espérer que ça se fasse dans la paix. Parmi les premières mesures du colonel Doumbaya, il a fait libérer plein d'opposants à l'ancien régime. Aussi, il a tenu à rassurer, bien sûr, les compagnies étrangères, les minières, l'agroalimentaire, qui sont très, très puissantes partout en Afrique.
Oui.
Et ce nouveau président guinéen, on lui reproche déjà, par contre, au niveau local, là, de ne pas avoir l'air très pressé de mettre en œuvre cette transition vers des élections présidentielles. Donc, Doumbaya sera-t-il encore au pouvoir en 2040? Donc, je ne sais pas si c'est lui ou les apatrides qui vont durer les plus longtemps. Là. On surveille ça.
J'en ai une petite idée.
C'est nous?
Non, c'est pas.
OK, donc on passe de la Guinée au Mali. Ça va pas très bien. Un coup d'État en août 2020, un autre en mai 2021, moins d'un an plus tard. Un pouvoir militaire, encore une fois, dit de transition. Donc, pouvoir qui cherche à se consolider, lui, c'est moins hypocrite, peut-être. C'est peut-être il cherche vraiment à se consolider de toutes les façons possibles, notamment contre les groupes djihadistes qui sont assez actifs dans le Sahel. L'une des façons que le pouvoir militaire a trouvé récemment, c'est de chercher à s'allier avec des paramilitaires russes du groupe Wagner, qui est une sorte de compagnie de sécurité privée. Ben, c'est à la fois politique aussi. Enfin, ils sont difficiles à définir. C'est un genre d'armée russe parallèle très proche de Poutine, présent partout où il y a des intérêts économiques ou politiques proches du Kremlin. Il était présent, ce groupe-là, le groupe Wagner, en Syrie, en Ukraine, lors de l'annexion de la Crimée. La fameuse milice que les journalistes n'arrivaient pas à identifier, c'était pas mal de ces gens-là. Il a été présent au Venezuela. En Afrique, leur quartier général, c'est la Centrafrique, mais ils sont quand même un peu partout et ils cherchent clairement à prendre de l'expansion. Donc, le pouvoir militaire de transition au Mali est en train de négocier avec le groupe Wagner et ça énerve beaucoup les puissances coloniales plus traditionnelles, principalement la France, mais aussi les Britanniques, les Allemands, bref, tout le monde qui a des intérêts économiques au Mali et dans la région. Ils n'aiment pas trop ça, voir les Russes se rapprocher comme ça du pouvoir malien via le plus ou moins mystérieux groupe Wagner qui a des pratiques aussi douteuses
on
l'a vu un peu partout dans le monde. La France a ses troupes au Mali depuis des années, ce qui est essentiel, oui, pour éloigner les menaces djihadistes et assurer une certaine stabilité dans certaines régions, mais ça lui permet à la France, évidemment, d'avoir ses troupes sur place, d'asseoir son influence non seulement au Mali, mais dans toute la région, de protéger les activités économiques des entreprises françaises. Il semble qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de contrat signé entre le gouvernement malien et le groupe Wagner, peut-être à cause des menaces faites par la ministre française de la Défense, Florence Parly, qui s'est rendue sur place au Mali pour, encore une fois, menacer de mettre fin à la mission française. Donc, pour l'instant, c'est plutôt des jeux de coulisses, mais si ça devait mener à la signature du contrat qui prévoirait de confier aux Russes des régions du Mali qu'on dit oubliées par les troupes françaises, ça pourrait contribuer à déstabiliser peut-être encore plus une région qui est quand même, somme toute, agitée. On passe à la Côte d'Ivoire. C'est un peu particulier ce qui se passe en Côte d'Ivoire. L'État ivoirien a signé avec plusieurs de ses pays voisins en Afrique de l'Ouest une sorte d'entente qui mettrait fin au statut de réfugié de ses propres ressortissants. Des ressortissants ivoiriens qui ont quitté le territoire de la Côte d'Ivoire dans les 20 dernières années. En fait, je vais vous citer un article d'Infomigrant qui utilise un langage peut-être un peu plus clair que moi. Ce qui a été signé, c'est une déclaration dans laquelle on recommande officiellement l'invocation de la clause de cessation du statut de réfugié. En clair, la Côte d'Ivoire et les autres pays signataires jugent que les causes qui avaient poussé à fuir la Côte d'Ivoire n'existent plus et que la Côte d'Ivoire vivrait, selon leurs critères, une période de stabilité politique et économique durable.
Mon Dieu, ce serait bien un des seuls pays dans le coin. Hein?
Ben, je sais pas, je suis allé voir les conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères canadien, qui juge extrêmement dangereux de voyager en Côte d'Ivoire. C'est un peu étrange. D'autant plus que cette entente-là de cessation de statut de réfugié a reçu l'aval du Haut-Commissariat pour les réfugiés, qui se base sur des sondages sur le terrain parmi les 50 000 réfugiés ivoiriens dans la région, dont, paraît-il, 60 % souhaitent être rapatriés en Côte d'Ivoire, 30 % seraient indécis et 10 % veulent rester dans leur pays d'accueil où on présume qu'ils se sont bien intégrés.
Étrange.
L'entente serait effective à partir de janvier prochain. Les différents États, en collaboration avec le Haut-Commissariat, piloteraient les rapatriements, notamment ce qui traite toutes des questions techniques, technicalités juridiques, les impôts, les titres de propriété, la reconnaissance des diplômes, la citoyenneté. Donc voilà, c'est quand même spécial. Je crois pas avoir vu quelque chose de semblable depuis que les apatrides ont existé, depuis des années. On s'intéresse au phénomène migratoire un peu partout, mais moi, en tout cas, j'ai jamais rien vu de tel.
Rapidement, ça me fait sourciller.
Je vais essayer de trouver d'autres sources d'informations pour essayer d'étoffer un peu ce dossier-là, parce qu'effectivement, c'est très particulier, mais c'est effectivement vrai que le Haut-Commissariat a donné son accord et que les opérations de rapatriement commencent bientôt. Je passe rapidement à la RDC, juste pour souligner un rapport d'enquête qui vient de sortir. 83 auteurs de crimes sexuels graves parmi l'OMS lors de la crise de l'Ebola entre 2018-2020. C'est des enquêtes journalistiques qui avaient mené, qui avaient forcé finalement l'OMS à mener ses propres enquêtes. C'est un peu toujours... je ne sais pas comment dire ça, mais c'est des gens qu'on dit humanitaires et qu'on paye pour assister, pour porter assistance aux personnes en situation de crise sanitaire grave dans le cas de l'Ebola. Et bref, il y aura des accusations probablement qui seront portées bientôt. Je vais vraiment garder pour la prochaine fois. Le Burundi a subi des inondations catastrophiques récemment. Et je vais peut-être souligner mon dernier, il y a un in memoriam tout spécial pour Théoneste Bagosora, surnommé le cerveau du génocide de 94 au Rwanda. Il est mort le 25 septembre à l'âge de 80 ans dans une prison malienne où il purgeait une peine à perpétuité pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre, peine prononcée en 2008 par le Tribunal pénal international sur le Rwanda. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite au défunt Monsieur Bagosora?
Arrive
de pourrir en affaires pour l'éternité.
Ouais, c'est ça.
Donc, voilà, pour l'Afrique.
On vous revient avec l'agenda. Au calendrier dans les prochains jours, d'abord dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, la Coalition montréalaise de la Marche mondiale des femmes organise une marche à Montréal le 17 octobre prochain. Une marche contre la violence et la pauvreté, mais aussi pour la justice climatique et sociale et pour les droits de toutes les femmes autochtones, migrantes, racisées. Il y a aussi des marches qui vont avoir lieu un peu partout au Québec pour célébrer, parce que c'est quand même, faut le souligner, les 20 ans de la Marche mondiale des femmes. Donc, le rendez-vous à Montréal est à 13h, je répète, le 17 octobre, au Carré Cabot, métro Atwater. Pour plus d'infos sur les autres rendez-vous, puis il y a d'autres, pour les revendications aussi, puis les d'autres activités, vous pouvez visiter le site cqmmf.org, c'est-à-dire Coalition montréalaise de la Marche mondiale des femmes. On a aussi quelques suggestions d'activités culturelles, parce qu'il y a Mathieu qui est avec moi. D'abord, une exposition qui est présentée depuis le 25 septembre au Musée McCord et qui s'intitule « Voix autochtones d'aujourd'hui, savoir, trauma, résilience ». En fait, il s'agit de la nouvelle exposition permanente du musée. Plus de 700 personnes de 18 nations au pays ont été rencontrées par la commissaire de l'exposition Elizabeth Kane en collaboration avec l'organisme autochtone La Boîte Rouge Vif. L'expo présente donc 400 objets de la collection Culture autochtone du musée, objets qui ont été sélectionnés par l'Inou Jean Saint-Onge de la Maison de la Transmission de la Culture Inou de Chapoutouane. Et ces objets-là sont mis en parallèle de plus de 80 témoignages textuels et vidéos pour mettre en lumière les savoirs et les philosophies des nations autochtones. ce qui distingue vraiment le plus cette expo-là des autres qui ont été faites sur les Autochtones, c'est que là, c'est pas le musée qui explique l'histoire, ce sont vraiment les Autochtones eux et elles-mêmes qui prennent la parole, ce qui est assez rare en contexte muséal.
Qu'on voit de plus en plus quand même.
Ouais. Ouais. Mais il y a plus, donc il y a plusieurs témoignages écrits vidéo qui s'expliquent, bon, parmi les sujets, là, la RAF des années 60, les pensionnats pour Autochtones, la situation des femmes autochtones disparues et assassinées. Et je voudrais juste citer, avant de te céder la parole, Mathieu, la commissaire Elisabeth Kane, qui est aussi co-titulaire de la chaire UNESCO en transmission culturelle chez les premiers peuples, qui explique en fait le but de l'exposition. Elle dit, on veut que ce soit une exposition qui donne le goût de la rencontre. Il n'y a pas de réconciliation s'il n'y a pas de rencontre. Dans cette rencontre, nous désirons que les gens soient curieux de connaître autant nos histoires plus lumineuses que nos histoires plus sombres. Et peut-être vous dire, parce que j'ai vu que le Musée McCord célèbre ses 100 ans, je pense, ça se peut-tu en tout cas?
Oui, oui.
Puis qu'à partir du 13 octobre jusqu'à fin novembre, le musée va être gratuit. Donc, profitez-en.
Faut pas le dire trop fort.
Et toi, Mathieu, ben, un peu dans le même ordre d'idée, tu nous parles de la Biennale de l'image qui, elle aussi, accorde une grande place aux artistes et aux questions autochtones.
Écoute, t'as presque tout dit. Je vais donner quelques suggestions. Cette Biennale, donc, s'appelle Momenta, qu'à la nature ressent. C'est ça le thème de cette année. Donc, depuis 89 existe cette Biennale de l'image. C'est avec la participation des musées, galeries, centres d'artistes de Montréal. C'est jusqu'au 24 octobre pour la plupart des expositions, donc dans la région de Montréal. C'est la 17e édition. 51 artistes en résidence de 24 pays au sein de 15 expositions, avec beaucoup d'Autochtones, comme tu disais. La thématique cette année, c'est justice environnementale et ses croisements avec la justice sociale. Donc, c'est assez intéressant. Deux, trois suggestions rapidement. Sur le terrain extérieur de la Grande Bibliothèque, ici, autour de l'UQAM, ça s'appelle Théon Nenquen, qui veut dire « soutien de la vie ». C'est trois artistes qui ont imaginé un écosystème urbain, un jardin avec des plantes indigènes et des créations. Des artistes, donc, d'Hawaï, de la région de Montréal et de l'Ouest canadien, mais autochtones, comme je disais. Sinon, Musée McCord, une autre expo qui, elle, dure, par exemple, jusqu'au mois de février, tandis que le reste, la Biennale, c'est beaucoup jusqu'au 24 octobre. Caroline Monet, que tu connais, ouais. Anishinaabe, et Laura Hartman, qui est Apache des États-Unis. Donc, une musicienne et une artiste visuelle qui ont correspondu pendant la pandémie. Et là, c'est le résultat de leur travail de collaboration musique et art visuel. Donc, ça va être assez intéressant. Et peut-être dire aussi qu'à la Galerie de l'UQAM, on est à l'UQAM ici à Choc, De la Terre, c'est une exposition avec des artistes de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de l'île Maurice, des États-Unis, du Canada. Et je te lis en terminant la petite description. Les artistes se penchent sur nos rapports destructeurs avec l'environnement et sur la façon dont la mainmise du pouvoir colonial sur le territoire a bouleversé les relations avec celui-ci. Hein? C'est vraiment dans nos cordes. Et c'est toutes sortes de médiums utilisés pour cette exposition collective à la Galerie de l'UQAM jusqu'au 24 octobre.
Puis pour avoir la programmation complète, on va où?
Sur le site de Momenta, la Biennale de l'image. J'ai pas l'adresse avec moi, mais
bon.
Momenta...
Un bon moteur de recherche,
ouais,
va trouver
Biennale
ça.
Biennale de l'image de Montréal, c'est aux 2 ans, donc on peut pas manquer notre coup.
C'est bon, ben merci,
merci
Mathieu.
Merci à toi.
Alors, c'est déjà la fin. Merci à vous tous et toutes qui avez été à l'écoute. Si vous l'avez fait en direct, je vous rappelle que vous pouvez aussi écouter en balado les émissions que vous avez manquées. Il y en a plusieurs quand même depuis 2 ans. On en a fait plusieurs. Donc
2 ans et demi.
2 ans et demi, oui. Donc, vous pouvez vous rendre sur notre page, sur le site de choc.ca ou encore sur notre site Internet www.apatridesanonymes.info. Vous pouvez aussi nous écrire à apatridesanonymes@commercialresist.ca et nous suivre sur notre page FB qu'on alimente régulièrement de nouvelles en lien avec les sujets qu'on aborde à l'émission puis qu'on vous invite d'ailleurs à partager. Merci Mathieu Simon, hein, pour votre sens de la synthèse et de vulgarisation de sujets parfois complexes.
Ben, merci, puis merci à toi Marie-Ève pour l'animation et les contenus.
Merci Mathieu, merci Marie-Ève, merci tout le monde à la maison, partout.
On va terminer en musique avec la pièce de Trilogy, de la formation Soons, formation montréalaise. La pièce est tirée de leur album The Weirdness. sorti en septembre et qui figure lui aussi au palmarès anglo, cette fois-ci, de Choc, en 16e position.
Hey, je les ai vus au Rialto il y a deux semaines.
C'était-tu bon?
À Pop Montréal, c'était très bon.
Bon, ben écoutez, on vous... mettez ça dans vos oreilles. On vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dans deux semaines.
Oui, genre le 21 octobre.
Le 21 octobre.
Yes.
Bonne soirée.
Bye.
Stuck between the moon and the morning light.